Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, soyez les bienvenus dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, nous allons nous éloigner des livres, des salles de concert, des théâtres. Nous allons nous éloigner en fait de la culture humaine pour nous plonger dans un univers qui penche nettement du côté de la nature. De la nature profonde, la plus reculée du monde. Nous allons nous enfoncer dans la jungle africaine avec notre guide qui est connu et reconnu pour être l'une des plus grandes spécialistes mondiales des chimpanzés. Bonsoir Estelle Rabadan.
Bonsoir Claude.
Tout d'abord, merci de nous consacrer un peu de votre temps lors de votre bref séjour à Paris. Bienvenue dans ce pays qui est le vôtre, mais depuis plus de 30 ans que vous fréquentez les chimpanzés dans leur milieu naturel, vous vivez plutôt en Afrique, entre Guinée et Côte d'Ivoire. Dans quel pays étiez-vous les dernières semaines ?
Dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire et je repars demain à nouveau en Côte d'Ivoire.
Alors, quelles étaient vos missions sur place là-bas les derniers mois et quelles sont vos préoccupations là-bas sur place ?
Alors, en fait, si je peux replacer un petit peu dans le contexte, déjà, les chimpanzés sont une espèce intégralement protégée. Il existe plusieurs sous-espèces et la sous-espèce avec laquelle je travaille actuellement, c'est les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, les Verus. Et eux, la population de chimpanzés sauvages a énormément diminué depuis les dernières décennies.
À cause de quoi ?
Alors, il y a plusieurs causes. Il y a la déforestation, bien sûr, les conflits humains-chimpanzés, il y a les maladies et il y a le trafic de viande de brousse et surtout en Afrique de l'Ouest, le trafic de bébés. C'est-à-dire que les chasseurs, les braconniers, pour souvent liés à des commandes, c'est-à-dire des gens qui veulent acheter un bébé chimpanzé, commandent un bébé. Et pour avoir un bébé, il faut tuer la mère. Et comme les bébés, ils sont accrochés sur leur mère, c'est impossible de prendre le bébé sans tuer la maman. Et comme ils vivent en groupe et que les femelles font environ un bébé tous les 5 ans, un bébé dans un groupe, ça vaut très cher, donc tout le monde essaye de protéger la mère. Donc on calcule que pour un chimpanzé qui arrive en sanctuaire, entre ceux qui sont tués, c'est-à-dire la mère, peut-être le mâle dominant du groupe, le frère, la sœur, tous ceux qui n'arrivent jamais dans un sanctuaire, donc dans un centre de sauvegarde, on calcule entre 10 et 20 chimpanzés sont morts. Donc c'est absolument pas pérenne, et c'est un gros problème qu'il y a sur les peu de population qui reste. En Côte d'Ivoire, la déforestation et le manque d'habitat est vraiment un très très gros problème puisqu'il n'y a presque plus d'aires protégées ou de forêts classées ou d'endroits où il y a encore des chimpanzés en liberté. Maintenant, en Guinée, il y a encore une population de chimpanzés en liberté assez importante, mais la chasse et les destructions de l'habitat suite au grand développement, que ce soit des routes, les industries minières, parce qu'il y a un gros problème d'industrie minière en Guinée aussi, puisque c'est un sous-sol très riche comme la bauxite pour faire de l'aluminium, du fer or aussi, pour les mines d'or, les mines de diamants également. Donc c'est un vrai problème de garder des espaces naturels suffisamment grands pour protéger la biodiversité et les projets de développement qui ont des retombées plus ou moins importantes économiquement, certaines pas du tout et des très destructrices malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas forcément vu comme étant la principale idée de préserver les forêts ou la biodiversité, puisque les États préfèrent aller plutôt du côté du développement économique malgré tous les problèmes que ça amène, même pour les communautés locales après quoi.
Oui, revenons un tout petit instant sur cette diminution du nombre de chimpanzés de cette espèce que vous connaissez tellement bien. Vous dites que il y a des commandes de bébés de chimpanzés. Qu'est-ce que les gens font d'un bébé chimpanzé ? Est-ce que c'est un animal de compagnie ? Est-ce que c'est destiné à des des gens qui vivent en Afrique ou bien ailleurs?
Alors quand c'est des commandes, c'est généralement plutôt pour partir à l'étranger. Donc ça dépend, il y a plusieurs routes, plusieurs réseaux qui existent, qui sont... On travaille en permanence avec d'autres ONG et les gouvernements pour démanteler les réseaux. En Guinée, il y avait un très très gros réseau qui a été démantelé grâce au travail de différentes ONG justement pour démanteler ce trafic. Et ça partait en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, dans les pays du Moyen-Orient. Maintenant, les gens veulent un bébé chimpanzé parce que quand ils sont petits, ils sont absolument adorables. C'est vrai, ils sont d'ailleurs beaucoup trop adorables pour leur bien. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'un bébé chimpanzé, c'est comme un bébé humain, c'est que ça grandit. Ils deviennent juvéniles vers 6 ans à peu près, prépuberté, bon ça dépend si c'est mâle ou femelle, mais 8-10, à partir de 12 ans, ça devient vraiment des ados, et sont des animaux qui, à l'âge adulte, sont facilement 10 fois plus forts qu'un humain, et ils mesurent... alors les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, ils sont petits, en comparaison des chimpanzés d'Afrique centrale, surtout qui sont plus grands. Mais ils font quand même, un mâle fait 50 kilos, une femelle 35-40, mesure entre 1m30 et 1m50, quoi.
Et vous dites qu'une femelle ne met au monde qu'un seul petit. Une portée, c'est un petit, c'est pas...
C'est très rare qu'il y ait des jumeaux. Ça peut arriver, il y a quelques exemples de jumélité, mais c'est comme chez l'humain, c'est très rare. Maintenant, il faut savoir qu'une femelle, elle commence à cycler un peu comme la femme vers l'âge de 10 ans, on va dire, et fertile véritablement vers l'âge de 12-13 ans. Il y a quelques exceptions, surtout en captivité, mais dans la nature, généralement, c'est vers ces âges-là qu'elle commence à avoir son premier bébé. La grossesse, c'est 8 mois et demi. Quand elles sont pas enceintes, elles ont des chaleurs, enfin elles ont leurs règles tous les mois, comme les femmes humaines. D'ailleurs, pour la contraception, on utilise des moyens contraceptifs humains, féminins.
C'est-à-dire qu'ils sont sous contraception, les femelles, pour éviter des naissances...
En captivité. Ah, oui. Voilà, parce que l'idée des centres de sauvegarde, c'est si c'est possible de relâcher dans la nature, tant mieux. Mais malheureusement, les espaces naturels étant vraiment restreints, c'est vraiment pour... quelques chimpanzés triés sur le volet. Au CCC, donc en Guinée, au centre de conservation pour les chimpanzés, on a réussi le premier relâché que j'ai fait en 2008. On a relâché 14 chimpanzés. Après, on l'a supplémenté avec d'autres individus en 2010. Et depuis quelques années, le management, enfin l'équipe de gestion, on a réussi à trouver des financements pour pouvoir à nouveau rajouter en fait des chimpanzés sauvages, des chimpanzés ex-captifs dans la population de chimpanzés sauvages. Mais ce sont que des femelles pour l'instant. Et c'est au compte-gouttes, vraiment. Donc le relâcher, c'est très long, très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent et il faut avoir un espace naturel vraiment préservé très grand. En Côte d'Ivoire, vu qu'on vient juste de commencer le nouveau centre, on n'a pas pour l'instant faire de relâcher, on ne sait pas fermer la porte, donc on les réhabilite, les orphelins, dans une idée de pouvoir les relâcher plus tard, en espérant qu'on aura suffisamment bien protégé les forêts pour le faire. Pour en revenir aux femelles, parce que je vais un peu digresser. Donc, une fois qu'elles ont accouché, elles allaitent leurs petits pendant 4 ans. Donc, pendant cette période-là, elles n'ont pas à nouveau de période de fertilité. Elles sèvrent leurs petits vers l'âge de 4 ans. Et elles retombent à ce moment-là enceintes assez rapidement derrière. Et elles ont à nouveau un bébé. Donc, on dit que l'intervalle des naissances, c'est 5 ans entre chaque petit. Et comme les femelles, elles ont aussi une ménopause, comme chez l'humaine, vers l'âge de 40 ans. Si tous les bébés survivent, en moyenne, une femelle chimpanzée, si elle vit toute sa vie sans être tuée, elle peut avoir 7 bébés. 5 à 7 bébés, ça dépend de l'accès à la nourriture, évidemment, et de la situation. Donc c'est très peu.
C'est extraordinaire parce qu'on a vraiment le sentiment d'être tellement proche du genre humain que c'en est même un peu troublant. On va y revenir, Estelle Rabalan. J'aimerais, vous avez commencé à l'aborder il y a un instant, mais On parle ici, vous voyez, on se trouve, pour nos auditeurs, ils ne nous voient pas, mais on se trouve au Jardin du Luxembourg, à Paris. Un endroit extrêmement civilisé, avec des guillemets, et où on se pose des questions quant à, au devenir de la planète, l'environnement, etc. Comment vous, avec votre expérience de tant d'années de terrain, vous constatez, est-ce que vous le constatez d'abord, le dérèglement climatique, vous voyez les conséquences de la déforestation, les dangers de la perte de la biodiversité, comment vous analysez tout ça aujourd'hui, au mois de juin 2023?
Alors oui, malheureusement, on voit les effets. Tous les jours, quand je compare dans les années 90, les premières années où j'étais en Afrique, en forêt, ou avec les chimpanzés, ou dans différents pays, c'est vrai qu'on avait des grands espaces protégés, naturels, ou avec très peu d'impact anthropique, peu d'activité humaine. Les projets de développement n'étaient pas très présents. Donc il y avait des vastes étendues laissées pour la biodiversité, pour la faune. Et maintenant, ça se réduit comme peau de chagrin. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, sur les 20 dernières années, ils ont perdu 90% de leur couvert de forestier qui a été transformé ou en plantation de cacao plus ou moins illégale, en déforestation pour le bois d'œuvre et en replantation de champs d'EVA, par exemple. Et ce sont même pas, en fait, des cultures vivrières, ce sont des cultures d'exploitation. Ce sont pas pour les gens à utiliser pour eux.
Avec, j'imagine, des grands groupes internationaux qui interviennent, occidentaux, probablement américains ou européens.
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi, oui, bien sûr, des grands groupes. Bah, le chocolat, c'est principalement pour l'exportation. Hein. C'est très peu consommé au sein même de la Côte d'Ivoire. Il y en a un peu, mais c'est vraiment pour l'exportation. Et ce sont effectivement des grands groupes. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits d'ailleurs. Et maintenant, il y a une meilleure traçabilité, mais il reste quand même énormément de plantations de cacao illégales dans les forêts classées en Côte d'Ivoire. Et c'est une des choses que l'association Acatia en Côte d'Ivoire travaille justement contre les plantations illégales de cacao dans les forêts classées qui nous ont été attribuées par le gouvernement ivoirien pour y faire les deux sanctuaires, le sanctuaire du petit singe et le sanctuaire pour les chimpanzés. Et donc on travaille avec les autorités justement pour protéger ces forêts, surtout une qui est très importante puisqu'il reste une petite population de chimpanzés sauvages qui est vraiment un peu un petit miracle pour nous d'avoir trouvé cette petite population de chimpanzés sauvages, et on fait tout.
C'est-à-dire combien d'individus et dans quel espace et quel type d'environnement?
Alors, d'après nos études, je ne veux pas non plus dire exactement la composition, je vais rester un peu vague pour des raisons de sécurité de ces chimpanzés. Donc, c'est moins de 10. Voilà. Et la zone, la forêt classée de Yapoabé dans son ensemble, elle fait 21 000 hectares.
Oui, c'est assez petit en fin de compte. C'est relativement petit, bien que pour 10 individus, il y a de l'espace. Est-ce qu'ils ont la nourriture qui convient?
Après, malheureusement, cette forêt, elle est coupée par une route à quatre voies. Donc il y a plusieurs zones et chaque zone, en fait, est habité par quelques individus. C'est vrai que les échanges entre les deux groupes sont un peu difficiles, forcément, puisqu'il y a une route à quatre voies, une route à deux voies, mais très rapide entre les deux blocs forestiers. Et puis la forêt est aussi assez dégradée quand même, malgré tout, par les activités humaines, par les plantations de cacao illégaux, comme je le disais, mais il y a aussi des campements de braconniers. Il y a la coupe de bois illégale et malheureusement l'État n'a pas beaucoup de moyens non plus, c'est compliqué, c'est pas enclos et il y a des communautés villageoises qui dépendent aussi un peu de ces ressources, mais la plupart des gens qui viennent faire des activités illégales dans les forêts classées, c'est pareil en Guinée, il y a des communautés rurales qui font du champ en périphérie ou qui rentrent à l'intérieur pour aller faire de la chasse, de la petite chasse généralement. Mais en revanche, tout ce qui est vraiment gros, c'est-à-dire des grosses exploitations ou des grandes plantations illégales de cacao, par exemple, ou des VA, ou de la grosse chasse, c'est-à-dire aux chimpanzés, parce que c'est quand même très dangereux, ce sont généralement des gens de l'extérieur. Ce ne sont pas les communautés riveraines. C'est très rare que ce soit les communautés riveraines, en fait. C'est des gens qui viennent. Et comme maintenant, il y a de moins en moins d'espaces naturels avec de la faune, ou avec même pour les plantes médicinales, pour venir récolter des choses, il y a, les gens viennent de plus en plus loin, même d'autres pays maintenant, pour venir dans ces espaces protégés pour pouvoir chasser ou planter illégalement ou couper du bois illégalement.
Bon, alors, on voit que le bilan est quand même assez désastreux sur une trentaine d'années.
Et le changement climatique aussi.
Alors, mais précisément, j'allais vous poser la question, comment vous le constatez vous-même sur place, ce changement climatique ?
Il y a un exemple qui est quand même assez frappant, c'est-à-dire que le sanctuaire de Guinée, le centre de conservation pour les chimpanzés, est dans le parc national du Haut-Niger. Et c'est bordé au nord, dans la forêt de la Mafou, qui est la zone intégralement protégée numéro 1. Elle est bordée par le fleuve Niger sur 80 km. Et quand je suis venue la première fois en 97 avec les 8 premiers chimpanzés du projet, on avait des saisons quand même très claires avec une vraie saison des pluies qui commençait de juin jusqu'à septembre à peu près, et une petite saison des pluies au mois de février-mars. Et le niveau du fleuve était quand même assez stable d'une année sur l'autre. Pendant 5-10 ans, ça a été comme ça. Et puis maintenant, plus ça va, plus le fleuve est bas. Moins il se remplit vite, plus il rebaisse rapidement. Les pluies sont beaucoup moins abondantes qu'elles étaient. Et on voit bien, même au niveau des récoltes, les communautés riveraines s'en rendent compte. Et encore, on a la chance encore d'avoir de la forêt, donc on a de la pluviométrie. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu du parc et qu'on va dans les zones qui sont plus arides, là maintenant, ça devient une désertification. Il y a de plus en plus de feux de brousse et ça désertifie encore plus. Et c'est un cercle vicieux. Il y a de moins en moins de pluie, tout est de plus en plus sec. Et à l'inverse, en Côte d'Ivoire, dans la zone où on est, dans la forêt classée d'Yapoabé et dans la forêt classée de Komoué 1, les communautés riveraines, nous, ça fait pas très longtemps qu'on est là, ça fait un an qu'on est installé dans ces forêts-là. Et les communautés riveraines disent, on n'a jamais eu autant de pluie. Et en fait, parce que comme ce sont des massifs forestiers, après je suis pas hydrologue, je suis pas spécialiste du climat, mais quand je compare, quand on est dans la forêt, dès qu'on sort, il n'y a plus rien, il n'y a plus de forêt. Et en fait, ça concentre vraiment les nuages. Donc, que ce soit la forêt ou les communautés riveraines, dans les peut-être quelques kilomètres autour de la forêt, on a une pluviométrie très intense. Alors que dans la ville, qui va se trouver à 10 km, 15 km, eux, ils n'ont pas du tout de pluie.
Effectivement, donc vous ressentez très précisément dans les endroits que vous fréquentez ce dérèglement climatique. Si on revenait à l'origine, vous nous parliez de votre première expérience en 1997 avec...
En 94. Oui, ma première expérience.
Alors, justement, je me demandais, vous étiez très jeune à l'époque, vous l'êtes encore, relativement moins quand même. Et donc, il y a 30 ans, comment est venue cette vocation de vous intéresser à ces animaux ? Est-ce que c'était par, justement, goût et intérêt pour les animaux ? Est-ce que c'était pour la science ? Vous anticipiez déjà sur tous les phénomènes de biodiversité, etc. Ou bien c'était pour fuir le genre humain ? Estelle Rabadan.
J'étais vraiment intéressée pendant mes études de biologie par le comportement des grands singes. Et j'avais lu pas mal de livres et j'avais pris une option justement à la fac de sciences sur le comportement et particulièrement pour les grands singes. Mais les chimpanzés m'attiraient pas particulièrement parce que j'avais quand même lu pas mal de livres et c'était tout le temps marqué que les chimpanzés étaient violents, les chimpanzés font la guerre, les chimpanzés s'attaquent, ils se tuent, etc. Donc c'est vrai que c'était pas une espèce qui à l'origine me plaisait. J'aurais préféré travailler, j'avais dans l'idée à l'époque de travailler avec plutôt les orang-outans ou les bonobos, qui sont en RDC. Et les orang-outans, c'est en Asie, que je trouvais plus pacifique. En tout cas, à l'époque, il y a 30 ans, au niveau de connaissances qu'on avait à l'époque, c'était ce qui se disait. Et puis, en fait, la vie a fait que j'ai eu la possibilité de venir en Afrique. Et en fait, la Guinée est devenue l'endroit qui a été choisi parce qu'il y avait justement des chimpanzés. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une petite expérience avec les chimpanzés. Et une fois que j'aurai acquis de l'expérience, parce qu'effectivement j'étais jeune et j'avais pas d'expérience de terrain, je me suis dit, bon, je vais faire une petite expérience de 2 ans en Guinée. Et après, bah, je pourrai aller travailler avec les orang-outans ou avec les bonobos. Et voilà. Sauf qu'en fait, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Comme quoi, quand on fait des plans. Quand je suis arrivée, j'avais aucune connaissance des chimpanzés en tant que tels. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, bien sûr. Les communications étaient très difficiles avec la Guinée. Mais je savais qu'il y avait un centre de sauvegarde pour les chimpanzés orphelins qui était tenu par une Suisse sur Conakry, donc à la capitale. Et normalement, je devais faire volontaire là-bas, bénévole, dans ce centre. Sauf que quand je suis arrivée en Guinée avec mes affaires et tout ça, quand je suis venue à la Direction nationale des eaux et forêts, à l'époque qui s'occupe donc de la gestion de la faune, ils m'ont dit, bah non, la dame, elle est partie. Et puis bah, les chimpanzés, ils ont dit, bah, on en a mis une partie sur une île, il y en a une partie à Bissikrima, et puis, à l'époque, il y avait encore des bébés chimpanzés en vente sur le bord de la route, la loi n'était absolument pas renforcée parce qu'ils me disaient, on n'a aucun endroit où les mettre. Et du coup, on a arrêté de confisquer parce que quand on confisque, bah, ils meurent parce qu'on ne sait pas s'en occuper. Donc j'ai dit, bah, puisque vous êtes là, vous allez nous aider. Alors, j'ai dit, bah, moi je suis là 2 ans, donc c'est tout. Et ils ont dit, oui, mais après on va créer un sanctuaire de quelque part vous pourrez les placer là-bas et voilà, ce sera juste temporaire quoi. Donc j'ai dit, bon, d'accord, allons-y. Et en fait, ma première rencontre qui a vraiment été déterminante aussi, c'est que je suis allée un jour chez quelqu'un à Conakry pour quelque chose de complètement annexe. Et il avait un chimpanzé dans sa cour attaché par son cou avec une grosse chaîne. Il n'était pas bébé, il devait avoir 6-7 ans à l'époque. Et évidemment, je suis restée scotchée devant son regard et je me suis mise devant lui. J'ai fait comme j'avais appris dans les livres, je me suis auto-épouillée, je ne l'ai pas regardé dans les yeux. Et j'étais quand même à une certaine distance parce que je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Et puis, on avait toujours dit, les chimpanzés, c'est hyper dangereux, faut faire super attention, etc. Sauf qu'en fait, je n'avais pas calculé qu'ils avaient aussi des très grands bras. Donc, la distance de sa chaîne, il ne pouvait pas m'atteindre, mais ses bras pouvaient m'atteindre. Et en fait, il me regardait, puis il s'est précipité assez rapidement. Enfin, il est venu sur moi assez rapidement et avec ses bras, en fait, il m'a étreint. Et comme il était attaché par son cou, en fait, sa tête était complètement en arrière. Il avait juste les bras qui me tenaient. Et j'ai vu qu'il n'était pas dangereux. Donc, je me suis rapprochée et il m'a pris dans les bras et il m'a serré et je l'ai épouillé. Enfin, voilà, Et ça a duré quand même assez longtemps. Ça a duré longtemps et je pouvais plus partir. Il voulait plus que je parte. Il pleurait. Et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, je vais te sortir de là. Et puis un jour, si tout va bien, tu pourras retrouver la liberté. Et maintenant, il est relâché dans le parc national du Niger. Il a 36 ans à peu près. Oui, 37 ans, 36, 37 ans. C'est un grand garçon. Il a fait plein de bébés avec les femelles relâchées.
Extraordinaire première rencontre avec ce Robert, chimpanzé qui s'appelle Robert,
oui.
Avec ses grands bras qui vous étreignent d'affection, d'amour peut-être. On va s'interrompre quelques minutes pour écouter un de vos choix musicaux. On peut pas rêver mieux, c'est le groupe Téléphone dans cette chanson où on rêve d'un autre monde. Voilà, on rêvait d'un autre monde. Et nous sommes en compagnie ce soir d'Estelle Rabalan, qui, elle, non seulement le rêve, mais vit. Et quelquefois, c'est un peu un cauchemar. Estelle Rabalan est sur IDFM Radio, dans l'émission Entre chiens et loups. Et c'est la spécialiste, une des spécialistes mondiales de la vie des chimpanzés. Elle nous fait le grand plaisir d'être avec nous à Paris pendant un très court séjour. Et j'aimerais continuer notre conversation pour vous demander, Estelle, à quel moment avez-vous compris qu'il y avait une urgence à protéger cette espèce de grand singe que vous connaissez en Afrique? À quel moment vous avez senti qu'il y avait un basculement? Et quelles sont les problématiques, au fond, qui se posent encore aujourd'hui? On a parlé de braconnage, on a parlé de trafic, de déforestation. Quelles sont les conséquences que vous voyez actuellement?
Ben, la population de chimpanzés sauvages en Afrique de l'Ouest a terriblement diminué. En Côte d'Ivoire, 90% en 18 ans, avec les derniers chiffres qui datent quand même de 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc, à l'heure actuelle, probablement, c'est difficile de savoir, parce que les évaluations de population sont difficiles à faire. Mais de toute façon, ça va pas dans le bon sens. Ils ont déjà disparu dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il en reste... donc en Guinée, c'est la plus grande population de chimpanzés sauvages sur l'Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, une petite population, et en Côte d'Ivoire, une très petite population, principalement dans le parc national de Taï et dans le parc de la Comoé, qui se trouve au nord. Maintenant, il y a une toute petite population au Mali, une toute petite population au Sénégal, mais ça a disparu au Ghana, ça a disparu au Togo, au Bénin, il n'y en a plus. Et toutes ces populations, elles n'ont pas migré, les chimpanzés ne sont pas migrateurs. Ils ont été tués tout simplement, ou par maladie, parce qu'il y a eu des épidémies aussi. L'épidémie d'Ebola également a fait des victimes. Sur l'Afrique, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola chez les humains, il y avait aussi l'épidémie d'Ebola chez les chimpanzés. Il y a tout ce qui est les maladies respiratoires, parce que les chimpanzés vivent maintenant de plus en plus proches aussi des populations humaines. Donc, ils tombent malades de maladies humaines, de zoonoses.
Si on voulait reprendre très brièvement une sorte d'arbre généalogique, les chimpanzés... auxquels vous êtes tellement attaché, à quel stade de l'évolution ils appartiennent et quel est notre rapport avec eux?
Déjà, les chimpanzés, c'est des primates comme nous, donc ils ont un pouce opposable. Après, ils sont considérés comme des grands singes. Alors, c'est un petit peu difficile en anglais, parce que le mot singe est vraiment utilisé à tort et à travers. Au moins en anglais, il existe un mot spécifique, c'est apes. Donc c'est ceux qui n'ont, ils ont pas de queue. C'est facile de les reconnaître parce que ce sont ceux qui n'ont pas de queue. Donc il y a les lesser apes, ça c'est les gibbons, ceux qui vivent en Asie, et les great apes. Et dans les great apes, il y a l'orang-outan, le gorille, le bonobo, le chimpanzé et l'humain. Et après, il y a ceux qui sont humanoïdes et non humanoïdes, en fait. Donc, les chimpanzés, ce sont l'espèce, enfin, les descendants d'un ancêtre commun avec l'homme. Et cet ancêtre commun, la séparation entre le chimpanzé actuel et l'humain Homo sapiens actuel, la séparation s'est faite la plus récemment par rapport aux autres espèces de grands singes, où la séparation de l'ancêtre, enfin... La différenciation au niveau de notre ancêtre commun a été faite avant ça. Et puis chez les chimpanzés, c'est plus de 98% d'ADN identique. Et en ADN fonctionnel, c'est-à-dire que quand on enlève les choses qui ne sont pas très utiles, on est à plus de 99% d'ADN identique.
Ah oui, c'est vraiment une fraternité. On comprend pourquoi c'est très important de conserver cette espèce qui est tellement proche de nous. Sans le savoir, on n'imagine pas quelle proximité on a avec ces animaux.
Oui, alors après, il y a une question éthique et morale. Si on n'est même pas capable de protéger notre cousin le plus proche, on est mal barré pour l'espèce humaine, clairement. Et puis après, il y a aussi leur intérêt. Ils ont un grand rôle à jouer dans la forêt. On les appelle souvent d'ailleurs les jardiniers de la forêt, puisque ce sont des animaux lourds et grands et forts et qui peuvent monter dans les arbres, casser les cimes d'arbres, les branches, pour permettre aux animaux et aux arbres, ou à la régénération de la forêt sur son sous-sol. Donc ils sont très importants par rapport à ça. Ils sont aussi très importants pour la dissémination des graines, puisque même s'ils ne sont pas migrateurs, ils ont des territoires quand même assez larges, donc ils vont manger un fruit à 3 km de là et après planter la graine dans leur sel beaucoup plus loin, donc ils participent aussi à la dissémination. Et en plus de ça, c'est que de plus en plus d'études sont faites sur la pharmacologie. Ils s'auto-médicalisent avec des plantes qu'ils trouvent dans la forêt, et ça nous permet, nous, êtres humains, après, d'utiliser aussi ces ressources pour nous-mêmes, pour nous soigner.
Alors justement, ça m'amène à une question qui s'est posée pour vous il y a quelques années. Il y a un de ces singes qui s'appelait Ponso, dont vous vous êtes beaucoup occupé, qui a servi de testeur dans un laboratoire américain, il me semble. Et après avoir été testé sur de multiples examens pharmacologiques, il a été relâché avec toute sa famille dans une île de Côte d'Ivoire. Et il avait peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Ponso ? Est-ce que vous en avez des nouvelles ? Est-ce qu'il est encore en vie ? Parce que, il faut bien le dire, toute la famille qui a été transféré avec lui dans cette île de Côte d'Ivoire a été décimé par la maladie, sans doute, ou par le braconnage.
Oui, alors on ne sait pas exactement pourquoi les chimpanzés qui avaient été transférés avec lui ont tous disparu. On a quelques idées pour certains individus, mais on ne sait pas pour les autres. Et effectivement, il s'est retrouvé tout seul sur cette île, qui n'est pas la première île sur laquelle ils avaient été transférés. D'ailleurs, c'est une île sur laquelle il a été transféré après, avec une femelle. Et ils avaient eu des petits. Et là, pour le coup, la femelle est décédée de maladie, et les jeunes aussi. Et il n'y a que lui qui a survécu. Il a été très malade, mais il a réussi à survivre. Donc il est toujours là-bas. Merci à tous les gens qui avaient donné à l'époque pour lui. Ça permet de payer sa nourriture par l'association SOS Ponzo et ses soigneurs. Donc il est là-bas et il va bien, physiquement en tout cas, tout va bien. On avait essayé de lui intégrer une femelle pour qu'il soit pas seul. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné parce que il n'y a pas d'infrastructure, donc j'avais fait faire une cage qu'il avait fallu amener, fallait qu'elle flotte. C'était vraiment tout un truc énorme. Et puis, normalement, quand on fait des intégrations, il n'y en a pas un qui est enfermé et l'autre qui est libre. Et Ponzo, c'était absolument impossible de l'enfermer. Donc c'est vrai que c'est l'excitation a été vraiment trop importante. Maintenant, il est très sociable avec ses soigneurs, avec moi. Il est pas malheureux, mais c'est vrai qu'il vieillit. Et maintenant, avec le centre d'Acatia, éventuellement, si on a suffisamment de financement et que toutes les parties impliquées sont d'accord, c'est-à-dire que ce soit l'organisation SOS Ponzo, l'ONG Acatia, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, il serait peut-être envisageable de le déplacer pour ses vieux jours dans un endroit où on pourra lui prodiguer les soins vétérinaires dont il aurait besoin, voire peut-être le mettre avec une femelle âgée, parce qu'on a récupéré le mois dernier, avant que je c'était en avril, mi-avril, à Boaké, dans une ville au nord de la Côte d'Ivoire, une femelle adulte qui a 29 ans, qui vient de l'ancienne zoo de Boaké et qui était chez un particulier. Et là, on l'a amenée au sanctuaire d'Acatia. Elle est adorable, elle est vraiment super gentille.
Vous allez fiancer Ponzo avec cette jeune, cette dame âgée, enfin mûre.
Oui, plus mûre, une femelle adulte, disons. Je sais pas, c'est possible. C'est pas exclu, mais comme je disais, de toute façon, ce sera pas quelque chose qui va être fait en deux secondes. C'est des financements parce qu'il faut créer toute une structure d'intégration, une vraie structure d'intégration cette fois-ci, pour qu'ils fassent connaissance, un enclos électrifié suffisamment grand, pour qu'ils aient un espace naturel extérieur. Mais en tout cas, les mettre sur les îles là-bas, c'est juste pas possible, à moins qu'on fabrique une vraie structure sur l'île. Mais l'île n'est pas très grande, et avec la montée des eaux, ça m'inquiète qu'un jour il aura trop les pieds dans l'eau, voire même cette île sera inondée. Donc je préférerais, si tout le monde était d'accord et qu'on arrivait à avoir assez de financement, l'amener au sanctuaire d'Akatia, où on pourra s'occuper de lui sur ses vieux jours.
Justement, je me demandais quel type de relation vous avez avec les chimpanzés. Vous les connaissez tous parfaitement, individuellement, dans leur histoire, dans leur famille. Et je me demandais si vous étiez leur docteur, leur assistante sociale, ou leur psy, ou leur confidente, je ne sais pas.
Alors après, ça dépend des chimpanzés, parce que ceux que j'ai eus tout au début, quand j'ai commencé à travailler avec les chimpanzés, ou tout le temps où j'étais directrice du sanctuaire en Guinée, le CCC, ou les nouveaux arrivés maintenant, si je m'en occupe beaucoup, je joue un rôle de mère de substitution. Donc c'est des relations qu'on garde toute la vie, surtout avec les mâles. Parce que chez les chimpanzés sauvages, le mâle reste avec sa mère toute sa vie. C'est pour ça que le relâcher de mâle est aussi très compliqué, parce qu'il faut vraiment être avec eux beaucoup.
Ils vous reconnaissent vous-même comme leur mère, un peu ?
Disons que le lien qui existe, c'est un peu un lien, oui. Hein, c'est un lien fort, un peu de mère-fils, quoi. Avec les femelles, c'est assez vrai jusqu'à l'adolescence, puisqu'après, normalement, dans la nature, les femelles, elles changent de groupe pour aller trouver un autre groupe. Donc, elles s'en foutent un peu de moi. Mais par contre, elles vont pas être agressives, elles vont être, même les adultes, ça dépend desquelles, évidemment, il y en a certaines avec qui je fais plus attention que d'autres, mais disons qu'on a une relation de respect mutuel, et on se connaît depuis longtemps, donc il n'y a pas de problème. Mais avec les garçons, avec les mâles, c'est vrai que souvent c'est des relations très fortes, qui est toute leur vie en fait, avec moi, ou même avec les chimpanzés relâchés, avec les grands mâles. Quand j'allais encore en forêt avec eux alors qu'ils étaient relâchés, moi maintenant je suis plus sur la Côte d'Ivoire que sur la Guinée, donc j'ai pas eu l'opportunité d'y aller, mais c'est vrai que quand j'y allais encore, ça faisait 5-7 ans qu'ils étaient relâchés. C'est toujours, on fait un câlin, tout pareil, c'est maman.
Ils vous reconnaissent ?
Ah oui, sans problème. Je pense qu'ils ont même un mot pour moi.
Ah, ils vous donnent un nom ?
Oui, ils m'ont donné un nom. En tout cas, en Guinée, je suis sûre qu'ils m'ont donné un nom, parce que quand je viens, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, là j'y étais au mois de janvier, je ne sais pas quand est-ce que je vais y retourner, probablement en septembre, donc ça fait 6 mois qu'ils ne m'ont pas vue. Quand ils entendent ma voix ou ils savent que je suis là, déjà ils vocalisent beaucoup, ils sont super contents.
Ils disent Estelle ?
Ouais, je ne sais pas, ils disent un mot, il suffit qu'il y en ait un qui m'imite.
Vous pouvez l'imiter ?
Ah non, je ne peux pas l'imiter, vraiment c'est hyper spécifique, exactement.
Vous pouvez faire un bruit qui ressemble à un mot en langage de chimpanzé ?
Ils ont une syntaxe et des vocalisations qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense. Hein. Alors après, je peux faire le contentement, je peux faire...
Oui, faites le contentement.
Bon, quand ils mangent quelque chose, par exemple, qu'ils aiment beaucoup, ils font... Et ça, c'est un peu bonjour aussi, c'est l'excitation, bonjour. Quand ils nous voient depuis longtemps, on met la main comme ça, ils embrassent. Ou des fois, ils font des câlins, des bisous bouche ouverte. Donc ils mettent leur bouche sur mon cou ou quelque part sur mon visage, et ils mordent, mais pas fort, en faisant ça comme ça. Ça, c'est pour dire qu'ils sont contents.
Magnifique.
Mais en fait, quand ils entendent ma voix, il suffit qu'il y en ait un qui m'ait vu, il fait un bruit, fait un cri.
Elle est là.
Spécial, et tout le monde commence à hurler, surtout les plus vieux qui
vous connaissent depuis longtemps.
Voilà. Et là, ça crie, c'est genre... Et puis si je viens pas les voir vite, alors ça pleure.
Et quand ça pleure, ça des larmes ?
Non, par contre, ils pleurent pas avec des larmes.
C'est une mimique. Voilà, on a les pleurs et le contentement. C'est extraordinaire d'avoir ici à Paris, cette présence, on sent que vous les connaissez tellement bien. On va s'interrompre encore pour écouter Zazie qui dit « Je suis un homme », hein, une chanson que vous avez choisie aussi.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond.
Voilà, vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy et ce soir en compagnie d'Estelle Rabalan, nous explorons le monde extraordinaire des chimpanzés. Vous avez choisi cette chanson de Zazie pour dire quelque chose, Estelle.
Oui, moi cette chanson, elle me touche beaucoup et parce que justement ça explique à quel point l'être humain détruit tout en fait. On est en surpopulation, en surconsommation, en surtout. On ne sait pas faire dans la mesure. Et résultat, en fait, c'est toutes les autres espèces qui en pâtissent. Et puis on le voit actuellement. Il y a des pénuries d'eau. Il y a des pénuries. Il y a une partie de la population humaine qui a presque toutes les ressources pendant que les autres n'ont rien ou pas grand-chose. Et puis la faune sauvage où les espaces naturels se réduisent à peau de chagrin. Et justement, dans le clip de Zazie, tout à la fin, il y a une femelle chimpanzé, Wanda. On la voit sur une photo et elle a sa main sur sa tête. Et ça, je me dis, mais c'est clair. Et les chimpanzés, ils ont...
Qu'est-ce qu'elle dit
que les humains sont fous, qu'on est fous. On est destructeur, on est un virus pour cette planète et pour cette faune sauvage, vraiment, et pour les chimpanzés en particulier. Alors c'est les êtres les plus proches de nous, mais ils n'ont pas cet instinct de plus destructeur au point de tout détruire autour de soi. C'est vraiment terrible, l'espèce humaine est pour moi terrible.
C'est le pire danger pour cette nature que l'on magnifie aujourd'hui.
L'espèce humaine? Oui. Ah oui. Bah, on l'a bien vu pendant Covid. Il suffit que tout le monde soit enfermé pendant quelques mois et la nature reprend ses droits. Mais oui, c'est sûr. Après, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Mais disons que quand on voit la dégradation jour le jour et qu'on a des chimpanzés qui arrivent par dizaines, des orphelins traumatisés... avec des balles, alors que ce sont des petits êtres qui ont aussi le droit de vivre. Mais après, on parle des chimpanzés, mais c'est vrai pour tous les êtres vivants, en fait. Les êtres vivants, moi, je suis, on va dire, maintenant, il y a un terme pour ça, mais je l'avais déjà quand j'avais 10 ans, c'est je suis une antispécisme. Je n'aime pas faire la différence en considérant que l'être humain est au-dessus, parce que surtout, sur beaucoup de choses, l'être humain est en dessous, pour moi.
Je vais vous poser une question plus personnelle. Vous savez, cette mère nature qui est tellement généreuse, vous la connaissez parfaitement bien, au moins tout au moins en Afrique et en Asie aussi, mais pas forcément en Asie. Vous connaissez surtout l'Afrique. Et donc, pour nous qui sommes des citadins, vous voyez, ici, on a l'impression d'être dans un espace naturel au jardin du Luxembourg. Ça vous fait rire? Mais est-ce que dans vos forêts équatoriales ou tropicales, je ne sais plus à quel endroit on se situe, il y a des dangers, en fait. C'est un milieu hostile, il y a des serpents, il y a des insectes, il y a des trucs qui piquent, il y a des trucs qui grattent, il y a des trucs qui tuent. Vous ne ressentez jamais le danger vous-même?
Ah si, bien sûr, ça m'est arrivé. J'ai eu des interactions un petit peu trop proches avec des hippopotames dans le fleuve Niger. Et justement, Robert m'a sauvé la vie cette fois-là. J'étais avec lui en forêt. Il était adulte, il était relâché. Et j'étais sur un bateau. Il ne voulait pas... Normalement, je marchais avec lui, puis j'étais fatiguée, donc je suis montée dans le bateau. Et puis d'autres personnes marchaient avec lui, mais en fait, il voulait toujours m'avoir en visuel, donc il longeait la rive. Donc c'était vraiment compliqué pour les gens qui marchaient avec lui, parce que c'était forêt galerie, donc c'était vraiment compliqué. Et ils m'ont dit au talkie, vraiment, c'est pas possible, on n'avance pas. Et il faut absolument que tu reviennes marcher avec lui pour qu'on puisse couper à travers forêt, parce que le long de la rive, là, c'est impossible. Et on a docké le bateau, je suis descendue du bateau pour... ils n'étaient pas encore arrivés à l'endroit. Et en fait, en arrivant, je fais court. En gros, il y a une femelle hippopotame qui s'est sortie de l'eau pour m'attraper parce qu'elle avait un petit. En fait, elle s'est sentie en danger. Et j'ai crié parce que c'était sur une pente très douce, donc elle était en train de monter. Un hippopotame, c'est très rapide, hein, contrairement à sa taille. Quand ça veut, vraiment... Et puis la gueule, elle fait à peu près... Allez, je sais pas... Ça fait quoi, 1m50 d'envergure? Quand ça arrive vers vous comme ça, 20 cm, j'ai juste crié et je me suis reculée, mais j'ai même pas eu le temps de vraiment bien réfléchir. Et à ce moment-là, Robert est arrivé tout ébouriffé.
Robert le chimpanzé,
quoi. Vous... Ouais. Il est arrivé tout ébouriffé et il s'est mis devant moi. Et elle a pris peur et elle est rentrée à l'eau, donc il m'a sauvé la vie. Mais ça fait 3 fois j'ai failli me faire choper par un. Un hippopotame, donc, et 2 fois c'est un chimpanzé qui m'a sauvé. Donc j'ai dit, bon, là, on va se calmer avec les hippopotames. Mais sinon, oui, effectivement, il y a des dangers, c'est évident, mais c'est bien aussi parce que moi, c'est ce que je dis aux volontaires ou aux personnes avec qui je travaille, les nationaux. On a la chance de savoir, d'avoir l'humilité de savoir où on est. Parce que là, on se rend compte que si on n'avait pas notre cerveau et qu'on n'était pas capable de faire un feu, moi, le jour où j'ai pas mon briquet dans ma poche ou que tout est mouillé, c'est pas mes pauvres petits ongles, mes pauvres petites dents qui vont me sauver. Hein. Et puis si j'ai pas mes chaussures, je suis pas capable de courir, je suis pas capable de monter un arbre. On est nul en fait. Franchement, pour survivre, on est nul. Et c'est bien, ça nous donne cette humilité-là où on se dit, l'espèce humaine, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas au-dessus. On n'est pas adapté à notre environnement. On a adapté notre environnement parce qu'on était mal adapté.
Effectivement, nous, on n'a pas exactement les mêmes risques. On peut se faire écrabouiller par un camion qui va un peu trop vite, voilà, ou se faire agresser quelque part. C'est pas tout à fait la même vie. Et dans votre quotidien sur place, vous avez un endroit où vous reposez, vous avez un petit bâtiment, vous vivez dans la jungle complètement avec les animaux?
Alors, en ce moment, puisque je travaille principalement en Côte d'Ivoire et qu'on vient juste de démarrer, on n'a pas encore de structure en dur. On a ce qu'on appelle des abatams, donc c'est fait en local avec du bois et puis on a mis une bâche par-dessus, donc ça fait comme un hangar, on va dire, local. Et puis après, pour dormir, sous les hangars locaux, on a mis des tentes. Voilà, donc moi j'ai une tente avec... avec un matelas. Mais par contre, en Guinée, vu que le projet...
C'est une tente suspendue ou bien...
Non, une tente, oui, oui. Non, j'en ai mis des morceaux de bois en dessous pour être un petit peu surélevé. Mais bon, après, il peut y avoir des serpents qui se mettent en dessous, mais quand on ferme sa tente, on ferme sa tente, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en Guinée...
Il n'y a aucun problème extraordinaire.
Comme en Guinée, c'est un projet qui date depuis plus longtemps, parce que j'étais directrice de 99 à 2016. Donc quand je suis arrivée en 99, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais quand j'ai passé la main en 2015 et 2016, la transition a pris un peu de temps, bien sûr, on avait des bâtiments en dur. Moi, j'avais une case que je m'étais faite, que j'ai gardée tout le temps que j'étais directrice, que j'adorais, qui malheureusement s'est effondrée maintenant, avec un toit de paille et puis des murs en briques de terre que j'avais badigeonné à la chaux, et c'était mon petit cocon. J'adorais ma case, elle était fraîche en été et chaude en hiver, elle était parfaite. Et si je pouvais m'en refaire une là en Côte d'Ivoire, je la ferais, mais je pense que l'environnement est trop humide pour avoir une case en briques de terre.
Comment est-ce qu'on se nourrit dans des endroits pareils?
Comme tout le monde, hein, on va faire les courses au marché et puis on ramène. Hein.
Vous êtes près des villages?
Non. Après, ça dépend. À Katia, on a la chance d'être pas très loin d'un village, quelques kilomètres. Et on va faire les courses dans la petite ville d'à côté qui s'appelle Alépé. On y va une fois par semaine. Bon, alors par contre, bien sûr, on n'a pas d'électricité ni d'eau courante. Hein, on a l'eau dans les bidons.
Alors, vous êtes combien sur cette équipe-là? Parce que il faut quand même un minimum de logistique, un peu d'intendance, des rapports, un peu d'électricité pour du réseau. Comment ça se présente tout ça?
Bon, on n'a pas Internet au camp, On a un petit groupe électrogène et puis on a quelques petits panneaux solaires pour l'instant. Après, on aura peut-être tout un système électrique comme on a maintenant en Guinée. Mais pour l'instant, on est très rustique. Hein. Vraiment, quand je dis rustique, c'est vraiment très rustique. On a creusé des latrines que le mois dernier. Donc avant, on n'avait même pas de toilettes. Voilà.
C'est la nature.
Chacun se débrouille. Oui. Et puis pour l'eau, on va à la rivière. On a la chance, on a la rivière à 500 mètres. Donc on va remplir des bidons. Et puis on met un petit purifiant d'eau dedans et on boit comme ça. Donc en nombre, on a... on a des soigneurs pour s'occuper parce qu'actuellement on a 6 chimpanzés à Katia, orphelins de différents âges. Donc on a 4 soigneurs, un chauffeur en personnel ivoirien. On a au jour d'aujourd'hui 2 bénévoles français, tous les deux, 2 garçons qui ont travaillé dans des zoos avant. Et puis il y a moi, donc ça c'est sur le site chimpanzé. Après on a un autre site, donc dans la forêt d'Yapoabé, pour les petits singes. Donc il y a la personne qui est en charge, Sarah, c'était ma collègue avec qui j'ai créé Akatia en 2017. Et puis il y a une manager du site avec 2 bénévoles et 2 soigneurs. Donc ça c'est pour les petits singes. Et puis après il y a un conseil d'administration de l'ONG où là on est 5, donc avec la présidente qui cherche des financements sur la Côte d'Ivoire, ça s'appelle Dominique. Il y a un trésorier, une secrétaire, des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent aider. Donc ça, c'est la partie plus institutionnelle. Moi aussi, je suis dans le conseil d'administration. Et puis, voilà, avec cette petite équipe, tout le monde est bénévole, personne n'est payé, bien évidemment, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Donc si quelqu'un veut aider Akatia, il ne faut pas hésiter à aller sur notre site web.
On va dire l'adresse du site web.
Alors c'est www.akatia.org.
akatia.org.
Voilà, donc ça c'est pour le sanctuaire en Côte d'Ivoire. Après, bah, y a toujours l'option pour aider Ponzo, il y a toujours SOS Ponzo que vous pouvez chercher sur internet. Ils acceptent aussi les donations. Et puis pour le projet en Guinée, ça s'appelle le centre de conservation pour les chimpanzés. Vous pouvez aller chercher sur internet ou projet Primate pour le centre de conservation pour les chimpanzés.
On va écouter une chanson d'un artiste africain que vous aimez beaucoup et pour une raison très précise. C'est Tikenja Fakoly dans Non à l'excision. Pourquoi ce choix, Estelle Herbalan?
Bah déjà parce que Tikenja Fakoly, il est sur les 2 pays qui sont mes 2 grands pays de cœur, on va dire, la Guinée et la Côte d'Ivoire, parce qu'il est très écouté dans les 2 pays, bien qu'il soit originaire de la Côte d'Ivoire. Et en plus, on a eu la chance de le recevoir à Akatia il y a 1 an et demi, 2 ans. Il a passé une après-midi avec les chimpanzés d'Akatia. Il a fait une petite chanson pour soutenir notre travail. Et donc voilà, c'était pour faire le lien. Après, c'est vrai que la plupart de ses chansons, elles sont plutôt politiques. Mais il en a fait une qui est engagée, mais pas politique, contre l'excision, qui est vraiment un fléau sur l'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Guinée, qui est le 2e pays au monde à pratiquer l'excision le plus important après l'Éthiopie. Et vraiment c'est très grave pour la santé reproductive des femmes, c'est très grave pour leur développement personnel. Et ils font ça des fois sur des bébés, des petites filles, vraiment même des nourrissons. Et il y a une mortalité assez importante aussi. Et donc même si effectivement mon cœur est avec les chimpanzés, je travaille aussi avec les communautés rurales et les femmes pour essayer de empowering, donner du pouvoir aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Et l'excision, malheureusement, c'est quelque chose qui, dès le départ, les met en état de soumission et de peine et de douleur. Hein. Il y en a beaucoup qui, toute leur vie, en fait, souffrent dans leur chair à cause de l'excision. Donc, ça me paraissait.
Non à l'excision, Tikenja Fakoly.
Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent couper une fleur cachée sous son ventre. J'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un un homme est sur son ventre. Son corps ne répond même pas.
Voilà, nous reprenons notre émission et nous arrivons bientôt à son terme. Mais j'aimerais demander à Estelle Rabalan, qui nous en a tant appris sur la vie des chimpanzés, sur sa propre vie dans ces forêts africaines, malheureusement extrêmement décimées. Voilà, j'aimerais vous demander si un jour, vous avez eu envie un jour d'avoir une autre vie, une vie, disons, plus normal entre guillemets ou plus conventionnel comme vous aimeriez le dire.
Conventionnel pour rentrer dans les moules de notre société française, certainement pas. Maintenant, c'est vrai que je suis partie de la direction du CCC, c'était pour avoir une vie peut-être un peu plus équilibrée. C'est-à-dire ne pas vivre tout le temps en brousse avec 50 milliards de problèmes par jour à résoudre, essayer de lever un petit peu le pied à 40, j'avais quel âge à ce moment-là, 45 ans, ouais. Et donc j'avais envie de lever un petit peu le pied. Et puis bon, finalement, maintenant la vie m'a un peu rattrapée puisque maintenant je suis à nouveau directrice d'un sanctuaire pour les chimpanzés en Côte d'Ivoire, ce que je n'avais pas prévu au départ, mais bon. Je garde de toute façon à l'esprit beaucoup plus que ce que j'avais quand j'avais 22 ans, le fait de transmettre. Donc que ce soit aux bénévoles, que ce soit trouver des managers, essayer vraiment de transmettre mon expérience, mon passé, pour qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le flambeau. C'est très important de faire aussi de la transmission. Que ce soit au niveau des soigneurs, des gens avec qui je travaille, qu'ils soient africains ou non africains, c'est vraiment très important. Et aussi pour les bénévoles, que quand ils rentrent chez eux, ce soient les meilleurs ambassadeurs, ou que même là, pendant une émission comme ça, j'ai l'opportunité de dire aux gens, vous pouvez changer les choses vous aussi.
Alors, comment est-ce qu'on peut changer les choses, Estelle Rabalan? C'est très important. Tous ceux qui nous écoutent ont entendu ce cri.
Alors après, tout le monde n'a pas le temps ni les moyens de ou faire des donations à des petites organisations telles que la nôtre, telles que Acatia ou Projet Primate ou SOS Ponzo. Maintenant, ni le temps de venir faire du bénévolat pendant plusieurs mois, parce qu'on ne prend des bénévoles que pour 4 mois minimum. Mais en revanche, tout le monde a l'occasion de lire les étiquettes, de ne pas acheter du chocolat qui n'est pas certifié commerce équitable, commerce durable. Parce que le chocolat qui est vendu, où il n'y a aucune étiquette, aucun... Il faut savoir qu'en grande partie, ça vient des plantations illégales de cacao. Je vous invite à lire certains rapports qui ont été publiés, justement, dont un rapport très intéressant qui s'appelle le chocolat amer. Et c'est très, très intéressant. C'est assez court, mais c'est très intéressant, justement, sur le cacao illégal en Côte d'Ivoire. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Après, ne pas acheter du bois exotique, parce que malgré les certifications que vous pouvez trouver dessus, en vérité, on sait très bien que ce bois, en grande partie, je ne veux pas dire toujours, mais en grande partie, en tout cas une partie, est coupé illégalement dans les forêts tropicales d'Afrique pour être envoyé après dans d'autres pays qui vont mettre la certification. On sait que la Malaisie, ils exportent à peu près l'équivalent de 10 fois leur pays en bois. C'est pas possible. Donc forcément, c'est qu'il y a des certifications qui ne fonctionnent pas.
Donc une attention très... l'huile de palme.
Contre, oui, parce que l'huile de palme, ça tue les orang-outans en Indonésie. Et puis il y a tout un tas... N'allez pas voir un film où il y a un chimpanzé vivant dedans, parce que c'est de la violence, c'est de la torture. Il y a des choses que les gens peuvent faire, et également pour le climat, passer à un régime plus végétarien pour que nous on continue à avoir de la pluie en Afrique, ce serait bien, et arrêter de consommer des sachets plastiques pour qu'on les retrouve pas sur nos plages.
Voilà un programme assez simple finalement à suivre et qui protège toutes ces espèces qui sont tellement menacées. Un immense merci Estelle Rabalan pour nous avoir fait partager votre expérience, votre amour de la nature et en particulier de ces chimpanzés que vous connaissez et que vous protégez depuis des années. Un grand merci à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups qui sera consacrée, elle, à la musique et au festival musical de la Frette-sur-Seine avec Stéphane Spira comme président et comme invité. Nous retrouvons bien sûr dans un instant Lusso Mundo, l'émission en langue portugaise. Merci encore Estelle Ravalan.
Merci Claude et merci à tous et à toutes.